RFI, grand reportage, Charlotte Hudrag.
Bonjour, tous les 5 ans, c'est le même rituel qui se répète à Pékin. 2300 délégués du Parti communiste se réunissent pour nommer une nouvelle équipe dirigeante. Le 19e congrès, qui débute ce 18 octobre, doit reconduire le secrétaire général et président chinois Xi Jinping pour un deuxième mandat. Mais qui est cet homme qui dirige le pays le plus peuplé du monde, surnommé le nouvel empereur rouge pour avoir accumulé autant de pouvoir que Mao Tse-tung? Xi est présenté par la propagande comme un enfant du peuple. Conformément au récit originel du parti, il puiserait ses forces dans les 7 années passées en exil forcé dans un village pauvre à 1 millier de kilomètres au sud-ouest de Pékin, Liangyahe, un village aujourd'hui devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les 89 millions de membres du parti communiste. La vie du numéro 1 chinois est érigée en modèle pour toute la Chine et le culte de la personnalité bat son plein. Xi Jinping ou le mythe du nouvel empereur rouge, c'est un grand reportage signé Heike Schmidt.
Xi Jinping, cet homme discret et méconnu, a bâti sa légende dans le village de Liangyahe. Cette légende est celle d'un jeune homme qui s'est retroussé les manches pour labourer la terre aux côtés de braves paysans dans une misérable campagne.
Lorsque j'avais affronté des conflits ou des difficultés, ou lors d'une nouvelle mission, j'ai toujours pensé à mes frères, mes sœurs et mes villageois qui labouraient dur pour cultiver les champs et pour faire paître les troupeaux sur les collines de la Terre Jaune du nord-ouest du Shaanxi.
Une expérience qui aurait permis à ce fils de l'aristocratie communiste de devenir un homme proche du peuple. C'est l'histoire d'un prince rouge dans la peau d'un paysan. En 1969, Xi a 15 ans. En pleine révolution culturelle, son père, Xi Jiangtun, un frère d'armes de Mao, est victime des purges politiques. Considéré comme jeune instruit, le fils de ce héros de la révolution qui a grandi à Pékin dans les résidences réservées aux hauts dirigeants est envoyé à la campagne pour être rééduqué. De cette expérience, l'école du comité central du Parti communiste a tiré un livre de 452 pages. Sur la couverture, l'adolescent Xi, souriant, un paysan parmi les paysans, avec sa chemise déboutonnée et sa sacoche en bandoulière. Dans cette librairie à Pékin, le livre est exposé en bonne place, sous une affiche en lettres jaunes sur fond rouge qui salue les délégués du 19e congrès du Parti communiste. Ce client est conquis.
Je ne suis pas membre du Parti communiste, mais grâce à cette lecture, je saurai comment il a gravi tous les échelons. Comment il dirige notre pays, quelles difficultés il a surmontées. Ce livre nous encouragera à suivre son exemple.
Un mois après sa sortie, le recueil de témoignages des paysans qui ont partagé la vie de Xi pendant son exil forcé s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires, rapporte la presse officielle. L'historien Tan Hua croit connaître le secret de ce succès.
Si ce livre se vend bien, c'est parce qu'il porte une énergie positive. Il raconte comment Xi a su préserver ses nobles idéaux en toutes circonstances. Et comme lui, chaque personne doit assumer une mission importante pour le bien de notre pays, notre société, notre famille. Ce livre transmet l'énergie positive aux jeunes pour forger leur destin et pour qu'ils acquièrent les mêmes talents, pour qu'ils poursuivent les mêmes nobles idéaux.
La vie de Xi Jinping est érigée en modèle pour toute la Chine, se réjouit cette lectrice et fervente partisane du numéro 1 chinois.
Je suis membre du Parti communiste. Nous organisons régulièrement des cours pour apprendre les citations les plus importantes du président. Je m'inspire aussi de la pensée de Xi pour éduquer mon enfant. Cela lui permettra d'être ancré dans un concept de valeur. Les enfants doivent être la fierté de la nation.
Faute d'autorisation pour participer à l'un des cours organisés par le parti, nous partons alors sur les traces du nouvel empereur chinois, le livre à la main, direction le Shaanxi, à 1 millier de kilomètres de Pékin. Première étape, Lian'an, ou la terre sacrée de la révolution chinoise, selon le jargon du parti. Car c'est ici que Mao s'est retranché avec ses partisans, dont le père de Xi, après la longue marche. C'était en 1935, avant la victoire de 1949. À 1h30 de route de Yan'an se trouve Liangjiahe, le village où le mythe fondateur Xi Jinping commence, niché sur le flanc d'un plateau poussiéreux de l'Euse, la Terre jaune. Les passagers de la navette qui nous amène au village sont tout excités à l'idée de découvrir la grotte dans laquelle le camarade Xi a vécu.
Nous sommes presque une centaine de personnes. Nous venons d'apprendre la constitution du parti, l'histoire du parti et les citations de Xi Jinping. C'est pour devenir des membres excellents et loyaux du parti communiste. Là, nous allons visiter le village. Ensuite, il faudra écrire un devoir sur ce que nous avons appris ici.
Sur ce, le guide entonne une chanson aux paroles évocatrices. J'habite la terre jaune, le soleil se lève sur la colline et sa lumière pénètre dans notre grotte.
S'il vous plaît, les élèves de la première navette, suivez rapidement notre groupe.
Le groupe est d'accord pour visiter le village musée en notre compagnie, mais l'agent du bureau local de la propagande, qui nous attend déjà à l'entrée, en décide autrement. Il nous prie de le suivre au commissariat.
S'il vous plaît, notre commissariat va enregistrer votre passeport et votre carte d'identité. Quelle est sa nationalité? Donne-moi ta carte d'identité pour la copier.
Voilà mon passeport. Mon passeport est donc copié, mon nom enregistré. Après ce passage obligé, nous voilà dans le musée qui expose les outils de travail du paysan Xi. Plusieurs agents civils ne nous quittent pas des yeux, ils filment chacun de nos mouvements.
En décembre 1968, le président Mao a donné l'ordre aux jeunes gens de partir à la campagne et de travailler avec les paysans afin d'être rééduqués. Des millions de jeunes instruits ont répondu à l'appel de Mao. En janvier 1969, Xi Jinping avait moins de 16 ans quand il est arrivé à Liangjiahe. Dans l'un de ses livres, Xi Jinping a dit « Je suis le fils de la Terre jaune ».
La Terre jaune, symbole en Chine du dur labeur et du noble sacrifice, a forgé l'homme, fait savoir la jeune guide en uniforme bleu et blouse blanche de sa voix monocorde. Difficile de se faire une image plus réaliste de la vie qu'a menée Xi Jinping dans ce village. Les gros bras du bureau de la propagande ne sont jamais loin et font nom de la tête aux visiteurs et villageois que nous abordons. Certains se lancent quand même, comme ce paysan en débardeur trempé de sueur, une pelle à la main.
Celle-ci est notre ancienne maison. C'est mon grand-père qui a vécu ici. Je voudrais en faire un commerce pour y vendre des jujubes et des céréales. Xi a vécu ici. Ça permet d'attirer des touristes. Sinon, il ne viendrait pas. Xi a passé 7 ans ici, n'est-ce pas?
Sur ce, arrive une nouvelle fois l'agent pour couper net la conversation.
Un journaliste? Dans ce cas, il lui faut une autorisation. Sinon, vous ne pouvez pas faire des interviews ici.
Personne ne doit toucher à la légende si soigneusement bâtie du président chinois. Les agents y veillent farouchement. Un peu plus loin, des visiteurs entrent dans l'étroite grotte où Xi Jinping a dormi sur un matelas élimé, comme s'ils entraient dans un temple. Le regard fixé sur la photo du jeune Xi, cet homme ose répondre à nos questions malgré l'agent qui braque sa caméra sur lui.
Xi était jeune, mais il pensait déjà au peuple, au futur de sa patrie. Je voudrais savoir comment il a vécu ici. Depuis qu'il est devenu notre président, il a contribué à notre pays et au monde. Son destin s'est forgé ici, à la base. Cette expérience lui permet aujourd'hui d'être au sommet pour développer la Chine. Je voudrais m'inspirer de son exemple pour être plus proche du peuple et j'appliquerai ce que j'ai appris ici dans mon travail.
Liangjiahe est aujourd'hui un véritable lieu de pèlerinage. Des cars amènent des flots de visiteurs. Chaque jour, entre 1000 et 7000, rapporte en tout cas la presse d'État. Du pain béni pour les villageois, voici la version officielle.
Les villageois ont pu déménager dans de nouveaux appartements. Ils vivent du commerce et entretiennent des vergers de pommiers et des fermes modernes. Ce village est devenu une base pour la formation des cadres et membres du Parti communiste et aussi le village du tourisme rouge.
Dans son discours prononcé en 2015 lors d'un voyage aux États-Unis, Xi Jinping a présenté le petit village comme un exemple pour toute la Chine.
Cette année, lors de la fête du Nouvel An, j'y suis retourné. J'ai vu des routes goudronnées, les villageois habitent maintenant dans de vraies maisons en briques et sous un vrai toit. Les seniors jouissent d'une retraite de base. Tous ont une couverture maladie. Les enfants vont à l'école. Ce qui s'est passé dans ce village reflète en miniature le progrès de toute la Chine. En un peu plus de 3 décennies, nous avons transformé le pays pour devenir la 2e puissance économique du monde. Et nous avons sorti 1,3 milliard de Chinois de la pauvreté.
Sur place, la réalité est plus complexe. Les paysans de Liangqiahe ont dû céder leurs terres à l'État. En échange, ils ont obtenu un emploi, comme nous le raconte cette dame qui vend des mules cousues main aux touristes.
Je ne cultive plus les champs parce que le gouvernement local a réquisitionné toutes les terres de notre village. Il a planté des fleurs, des herbes médicinales, des patates douces, des cacahuètes. Ce sont toujours les villageois qui travaillent ces terres, mais ils sont désormais salariés de l'État. Le gouvernement les paie 15 euros par jour. Nous devons acheter notre huile et notre blé ailleurs. Nous n'avons pas le droit de manger les céréales que nous produisons dans ces champs. Le gouvernement vend tout aux touristes.
Cette autre habitante qui se balade avec son petit-fils hoche la tête.
Nous ne pouvons plus élever des cochons car on nous dit que l'élevage pollue l'environnement. Du coup, l'air ne serait pas bon et les touristes ne viendraient plus.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a 5 ans, le gouvernement a transformé ce village perdu en une sorte de parc d'attractions à la gloire du président. Une autoroute flambant neuve a été construite et les hôtels accueillent les visiteurs dans des chambres qui sont la copie conforme de la célèbre grotte de Qi. Pour faire bonne impression, l'État a même fait rénover les vieilles fermes au bord de la route qui mène vers le village, nous dit ce riverain.
Tout est fait pour construire un lieu touristique. Les villageois qui habitent le long de la route en bénéficient. Les portes, les murs d'enceinte, les panneaux solaires, les toilettes. C'est le Parti communiste qui a tout financé. Regardez chez notre voisin. Le Parti communiste lui a donné plus de 30 000 euros pour restaurer sa maison. C'est parce que ça embellit la route que prennent les cadres provinciaux et le président lorsqu'ils vont à Liangqiahe. Voilà pourquoi les foyers qui l'abordent ont reçu des aides financières.
Les habitants de Liangqiahe, eux, sont relogés dans les tours qui sortent de la terre entre grues et bulldozers. Cette vieille dame, qui a passé toute sa vie dans son habitation troglodytique traditionnelle, se prépare au départ.
Nous avons signé un contrat avec le gouvernement. Il a pris mes grottes. Nous allons déménager. Le gouvernement a repris toutes les grottes par ici, mais j'ignore pourquoi.
Mais ce relogement forcé n'a en rien entamé l'admiration de cette paysanne impeccable dans sa blouse fleurie pour l'homme fort de la Chine qui fut, il y a 5 décennies, son voisin et camarade de travail.
Moi, à l'époque, j'ai travaillé avec lui. Nous avons cultivé les champs ensemble. Nous avons coupé les pailles du blé. Au début, il n'était pas habitué au travail dur. Ces jeunes gens arrivaient de Pékin et ils ont dû travailler à nos côtés. Nous avons construit des barrages, cultivé des champs et au fur et à mesure, il s'est habitué aux travaux physiques. Aujourd'hui, c'est notre président.
Au-dessus de son kang, le lit traditionnel chauffé par un four à charbon, une immense pancarte montre un président souriant, saluant les foules. Mais toute la fierté de cette modeste maison est exposée sur une étagère poussiéreuse, la photo de Xi entourée de paysans.
Voilà, au milieu, c'est Xi Jinping. À côté, c'est mon mari, Zhang Kuitu. C'était en 2015, lorsqu'il est revenu au village.
Le président est adulé ici. Souriant face à la caméra, il goûte au plaisir de ce bain de foule. Zhang Yifan, historien et fin connaisseur des coulisses du parti qui gouverne la Chine depuis 1949.
C'est cette image qu'il veut véhiculer auprès des petites gens. Ce n'est en revanche pas cette face qu'il présente au cadre de son parti. Face à ses pairs, il est austère et souhaite qu'ils aient peur de lui. Mais les petites gens, eux, sont censés l'aimer. Pourtant, leur vie ne s'est pas vraiment améliorée.
La propagande d'État fait son effet. Bon nombre de Chinois parlent de Qi Dada ou l'oncle Qi. Sur l'une des façades en pierre du village, On retrouve l'effigie de Tsi au centre d'une fresque murale montrant la voix à des paysans éblouis, donnant l'impression qu'un culte de la personnalité est en train de naître. Vrai ou faux, Zhang Lifan.
J'aperçois à présent une seconde campagne massive pour créer un dieu vivant depuis celle de l'époque maoïste, mais l'effet n'est pas le même. À l'époque de Mao, la Chine était un pays fermé. Nous n'avions aucun moyen d'obtenir des informations de l'extérieur. Mais depuis, nous sommes entrés dans l'ère d'Internet, donc seulement des gens stupides seront influencés par cette campagne censée fabriquer un nouveau dieu. Beaucoup de gens ne disent rien, mais ils comprennent ce qui se passe. Cette propagande n'aura donc pas l'effet désiré. Pourtant, le comité central du parti voudrait en effet que Xi soit considéré comme un dieu. Sans nul doute, Xi aussi veut que les masses le vénèrent comme un dieu.
À l'université de Yan'an, les étudiants apprennent à aimer le pays, le parti et son secrétaire général tout puissant. Et cela fonctionne.
Comme le Parti communiste est le noyau dur de la Chine, nous devons suivre le Parti communiste. C'est ce qui nous permet de grandir et de devenir les dignes héritiers de la patrie. Nous serons le sang frais au sein de notre Parti communiste pour qu'il soit plein de vitalité.
En treillis de camouflage, la casquette de l'armée vissée sur la tête, Zhe Yuanlong, 20 ans, vient de terminer ses exercices militaires dans le stade du campus. Face à notre microphone, ses camarades et lui se mettent spontanément au garde. À vous.
Nous avons appris en marche, repos, et à joindre les talons en signe de salutation. Ce n'est pas trop dur, parce que j'ai suivi les mêmes entraînements militaires à l'école secondaire et au lycée.
Le parti dicte une éducation patriotique aux élèves tout en déclarant la guerre aux valeurs occidentales. Les institutions académiques doivent faire en sorte que les idées du président Xi Jinping pénètrent dans le matériel pédagogique, dans les salles de classe et dans les têtes. Une directive que le professeur Tan Hua applique à la lettre.
Depuis le 18e congrès, il y a une attention particulière donnée à l'éducation politique. Nous avons des cours obligatoires sur l'esprit du Yan'an au programme dans toutes les filières. Nous faisons la propagande de l'esprit révolutionnaire du Parti communiste. Xi Jinping a dit « Pour qui formons-nous les étudiants ?» C'est essentiel, nous formons les bâtisseurs du socialisme. Ils devront assumer cette mission, ils seront dévoués et rendront service au peuple, à la patrie.
Tous les élèves doivent suivre des entraînements militaires et étudier les discours du maître de la Chine, mais ils ne sont pas les seuls. Assis sur des tabourets pliables, bloc-notes sur les genoux, les camarades communistes en formation dans le village musée de Liangqiahe notent scrupuleusement les propos du conférencier.
On sait que Xi Jinping aimait lire, il avait apporté une valise pleine de livres. Lorsqu'il faisait paître le bétail, il se penchait sur son livre au point de perdre son troupeau. Même quand il pleuvait ou qu'il y avait du vent, il travaillait dans les champs. C'est ici qu'il a appris le travail fondé sur la vie pratique et réelle des villageois, et ici qu'il a appris à supporter une vie dure. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être plus proche du peuple et de rester ancré dans le peuple.
Aucune fausse note ne vient perturber la légende, sauf celle-ci sur le parking. Un jeune employé aux lunettes rondes et en basket nous demande d'échanger quelques mots en anglais pour que ses collègues ne le comprennent pas et à l'abri de leurs regards derrière le car qui s'apprête à partir.
Nous avons voulu faire une excursion pour nous amuser, mais on était obligé d'y mettre une dose de politique. Alors nous avons passé 12 heures par jour dans ce bus pour venir ici. Vraiment, je n'aime pas ça. Ce lieu est un symbole. Ok, on m'appelle, je dois partir. Une minute, s'il vous plaît. Alors ils veulent faire de ce lieu un symbole pour prouver que les petites gens simples peuvent arriver au sommet de l'État. Mais c'est faux. Il n'est pas arrivé là-haut parce qu'il a travaillé ici, mais parce qu'il est le fils de quelqu'un. C'est un prince rouge. Voilà, c'est tout. Et ne demandez pas mon nom, je ne vous le donnerai pas.
La prudence s'impose en effet. Un autre Chinois, Hong Xiaomin, a lui été arrêté cet été. Dans une lettre ouverte, il avait critiqué le président pour avoir imité le culte de la personnalité de Mao Zedong. Xi Jinping ou le mythe du nouvel empereur rouge, un grand reportage de Heike Schmidt et de Han Wovu. Réalisation Matthias Taylor. Hey, 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 yeah, 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 yeah